c'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. En 2004, sortait le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, drame de science-fiction réalisé par le scénariste français Michel Gondry, avec en accompagnement une bande-son magistrale composée par John Bryan et Beck. Le film, primé par l'Oscar du meilleur scénario, raconte l'histoire d'un couple d'infortune, Clementine et Joel, incarnés par Kate Winslet et Jim Carrey. Relation née d'une complémentarité fusionnelle mais impossible, l'histoire d'amour de Clementine et Joel est vouée à l'échec. Clementine décide du jour au lendemain de faire appel à un médecin pouvant effacer les souvenirs de cette relation de sa mémoire. Lorsqu'il l'apprend, Joel choisit de faire de même. Mais à mi-parcours dans le processus d'effacement de ses souvenirs, celui-ci regrette et cherche à inverser le processus. Le film s'achève sur la perspective d'un recommencement de leur relation, les personnages sachant toutefois très bien qu'elle est vouée à l'échec. Le film a souvent été considéré comme l'illustration de la philosophie de Nietzsche, en particulier du concept d'éternel retour. L'éternel retour qualifie chez Nietzsche une des formulations de sa norme éthique suprême, de la règle fondamentale sur laquelle il faudrait régler nos existences. Vivre sa vie de manière à ce qu'on puisse vouloir la répéter à l'infini, éternellement. Ce, même dans les souffrances, les contradictions et les luttes. Nietzsche le formule encore autrement, il faut aimer son destin, en latin amor fati, renouveler en permanence le choix de sa vie, le choix du présent. On peut dire que Nietzsche part du même constat que les philosophies bouddhistes et par extension, que son mentor, le philosophe pessimiste Arthur Schopenhauer. À savoir que les vies humaines sont prises dans un cycle d'éternel recommencement, d'éternel retour de la souffrance, qui est par nature inévitable. Pour Schopenhauer et les bouddhistes, toutefois, il faut donc éviter, contrecarrer, se prémunir de la souffrance. Dans Le monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer pose que le désir est une manifestation de la volonté qui nous tyrannise. La volonté est caractérisée fondamentalement par un instinct de puissance, c'est-à-dire qu'elle cherche toujours à nous pousser plus haut, plus loin, nous rendant perpétuellement insatisfaits de notre situation présente. La volonté et le désir, ce sont des sortes d'instincts homériques, adjectifs dérivés de Homère et qualifiant les héros des mythologies grecques tels Ulysse. Ces instincts nous incitent à nous déployer toujours plus dans le monde, à viser chaque fois au-delà de nous-mêmes, toujours plus loin, à nous dépasser. Le problème fondamental du désir selon Schopenhauer, c'est qu'il nous rend donc parfaitement incapables d'embrasser notre condition présente. Comme il le formule de manière célèbre, le désir oscille, tel un pendule, de la souffrance de ne point avoir à l'ennui de notre condition présente. En effet, le désir est, par définition, un manque, et désirable ce dont on manque. De ce fait, désirer, c'est donc s'ennuyer de ce qu'on a déjà, délaisser sa condition présente, tout en souffrant de ne pas encore disposer de ce que l'on désire. L'attente dans le désir est une souffrance, parce qu'elle nous renvoie à l'objet qui nous manque, voire à notre impuissance à le posséder. Mais le désir, une fois satisfait, conduit à l'ennui et à la lassitude. L'objectif de la philosophie de Schopenhauer, et de la méditation chez les bouddhistes par exemple, et par conséquent de tuer le désir, afin de s'émanciper de la souffrance. Nietzsche, partageant le constat de la souffrance inévitable qui caractérise la vie, ne partage toutefois pas du tout les conclusions de Schopenhauer ou des philosophies bouddhistes. L'éternel retour, c'est accepter sa vie telle qu'elle est, entièrement, c'est-à-dire certes absurde, lourde de souffrance, de rupture et d'épreuves, mais également toujours recommencer, renouveler par le désir. Refuser de désirer, par refus de souffrir, c'est refuser de vivre. La condition même de la vie, c'est la volonté de puissance, de toujours se dépasser. Il faut donc vouloir la souffrance, le changement, le dépassement. Si bien que Nietzsche en arrive à cette conclusion, à la fin de notre vie, s'il nous était donné le choix, il ne faudrait pas vouloir reposer dans le néant, en paix et loin de la souffrance, mais vouloir revivre notre vie éternellement, c'est-à-dire transcender le fait même que la vie est souffrance. C'est pour cela qu'on a pu lire Eternal Sunshine of the Spotless Mind par le prisme de la philosophie de Nietzsche, puisque Joel et Clementine, alors qu'ils ont presque tout oublié de leur relation, font le choix de la revivre encore et encore, tout en acceptant leurs incompatibilités qui la conduisent à l'échec. Pour la beauté de vivre, pourrait-on dire. D'où le titre du film, Un jour éternel pour l'esprit sans tâche, c'est-à-dire en capacité d'oublier. J'aimerais ici proposer une interprétation alternative du film, basée sur la façon dont il construit le thème de l'oubli et qui me semble s'éloigner de Nietzsche. Dans son ouvrage « Considérations inactuelles » publié en 1873, Nietzsche peut ainsi écrire « Toute action exige l'oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière mais aussi l'obscurité. Un homme qui ne voudrait sentir les choses qu'historiquement serait pareil à celui qu'on forcerait à s'abstenir de sommeil ou à l'animal qui ne devrait vivre que de ruminer et de ruminer sans fin. Vivre implique d'oublier et même d'apprendre à oublier. Surtout ce qui fut autrefois source de souffrance, nous dit Nietzsche. Passer sa vie à ruminer sur ce qui nous a fait du mal, sur une relation perdue, sur des futurs qui n'ont pas eu lieu, sur le deuil d'un être cher, c'est s'acharner à raviver ce qui a déjà été digéré, à raviver ce qui est mort. Il faudrait donc avoir un rapport dit « instrumental » au passé, c'est-à-dire qu'il faudrait interpréter le passé afin qu'il nous soit utile dans le présent. Sélectionner du passé ce qui nous pousse à vivre, ce qui nous fait dormir la nuit, en quelque sorte. Tout rapport au passé nostalgique, ou qui s'attache trop à ce qui n'est plus, qui a irrémédiablement disparu, est mortifère. Chaque fois que le passé n'est plus l'instrument du présent, c'est qu'il fait surface d'une façon qui n'est pas souhaitable selon Nietzsche. Nietzsche considère que l'homme qui sait faire fi du passé tout en acceptant qu'il souffrira à nouveau dans le présent est proprement surhumain. Il a transcendé la condition humaine en l'embrassant pour ce qu'elle est. Dans cet esprit, on a pu interpréter le choix de Clementine d'oublier Joel comme un choix nietzschéen. En choisissant une souffrance irrémédiable dont elle ne peut rien faire, Clementine se tourne vers le présent et se défait du poids de ses fantômes. D'autres, encore, considèrent que c'est Joel qui est véritablement surhumain. En effet, contrairement à Clementine, à mi-chemin du processus d'oubli, il décide de revenir en arrière, acceptant en quelque sorte sa vie telle qu'elle est, et voulant recommencer sa relation avec Clementine en dépit du fait qu'elle l'ait fait souffrir dans le passé. Dans chaque cas, on voit les personnages principaux comme des avatars du surhomme de Nietzsche. Pourtant, lorsque Joel revient sur sa décision et essaie de conserver ses souvenirs de Clementine, ses motivations ne sont pas forcément celles de Nietzsche. Il semble estimer que ses souvenirs avec elle, bien qu'étant marqués par l'irrémédiable de la perte, valent la peine d'être protégés en soi, que le souvenir mérite d'être conservé en tant que tel. Le film peut donc aussi bien montrer combien le sort de l'oubli n'est absolument pas enviable, parce qu'il fait perdre de vue la mesure de la valeur d'un être, d'un événement ou d'une chose. Oublier, c'est certes ne plus souffrir de la perte, mais c'est aussi ne plus mesurer la valeur de ce qu'on a perdu. D'un autre côté, le risque en étant trop, pourrait-on dire, conservateur, c'est de rester prisonnier du souvenir, de la nostalgie et de la mélancolie, qu'on considère être des affects mortifères. Être nostalgique, c'est croire pouvoir faire revivre ce qui a été, c'est refuser de réorienter son désir vers de nouveaux objets et chercher des substituts d'anciens. Or, comme nous le rappelle le philosophe Jean Kelevitch dans son ouvrage « L'irrémédiable et la nostalgie » publié en 1974, le temps est marqué par l'irréversibilité. Ce n'est pas seulement que le temps passe, mais que chaque expérience, chaque instant, étant unique par eux-mêmes, ne se répéteront jamais. Toute première fois est toujours une dernière fois. Elle est insubstituable, même lorsqu'on cherche volontairement à répéter l'expérience. la première fois que vous mangez une gaufre, c'est aussi, de manière contre-intuitive, la dernière, car l'expérience de la découverte de cette gaufre à un moment de votre vie est irrémédiablement perdue. Dans sa chanson « L'iris et la rose », tirée de son album « Repenti », l'écrivain et chanteur Renan Luce exprime par exemple la vanité du désir de renouveler la nouveauté des expériences en ces termes.
Je ne sais plus voir le quotidien. J'aimerais me réveiller sans mémoire. Redécouvrir ce que je peux plus voir. J'ai écrit une petite annonce. Un mois déjà, pas de réponse.
Cherche, regarde. Mais cette irréversibilité du temps a autant une face négative qu'une face positive. Les expériences ne se répéteront plus jamais, ce qui signifie aussi que nos expériences se renouvelleront toujours. Toutes les premières fois sont certes des dernières fois, mais donc toutes les dernières fois sont aussi des premières fois. On pourrait en conclure trop rapidement qu'il faut donc lutter contre la nostalgie, cesser d'essayer de répéter, de reproduire ce qui ne sera jamais plus, et se tourner vers toutes les expériences à venir, qui sont par définition irrémédiables mais toujours nouvelles. Il faudrait orienter son attention sur la nouveauté et la singularité de chaque expérience du présent, et se détacher de ce qui est ancien. Il faudrait en somme manger sa gaufre en cessant de la rapporter aux anciennes gaufres connues dans sa vie, et en savourant cette gaufre-ci, unique en son genre, nouvelle, singulière.
Le problème posé par cette idée est que nous ne semblons pas faits pour faire comme si c'était notre première gaufre, ou pour concentrer notre attention sur la nouveauté d'une expérience. Même si chaque gaufre que nous mangerons dans notre vie sera différente, elle nous rappellera chaque fois aux gaufres précédentes, même inconsciemment. Il n'est pas vraiment possible dans notre expérience de faire la part entre ce qui appartient irrémédiablement au passé et ce qui appartient au contraire au présent. Notre expérience présente est toujours mêlée, grossie du passé. Ou encore, notre passé et notre présent sont indémêlables. Notre expérience du présent est donc toujours hantée, hantée par des fantômes d'expérience qui lui ressemblent. Elle est chargée à jamais d'une polarité négative. Il n'existe pas de solution chimique pour trier ce qui est nouveau de ce qui est ancien dans une expérience. C'est une interprétation possible de la Madeleine de Proust. Dans son célèbre roman Fleuve à la recherche du temps perdu, alors qu'il rentre chez ses parents plus âgés et mange une Madeleine, Proust fait l'expérience de la mémoire involontaire. Cette Madeleine lui rappelle celle qu'il mangeait chez sa tante Léonie quand il était plus jeune. Ce que cette expérience révèle, c'est que les épisodes présents nous rappellent ceux du passé, que nous vivons toujours le présent avec notre passé. Nous sommes tenus par notre condition même de faire avec le passé dans le présent. De manière générale, notre culture semble assise sur un paradoxe. Elle semble avoir, ou du moins vouloir, tirer ses leçons de la philosophie de Nietzsche en la déformant. Ainsi, il n'est pas rare que les influenceurs de tous bords nous incitent à oublier le passé pour nous tourner vers le présent. Notre éthique de vie est un mélange composite de tout un tas de philosophies morales, une sorte de carpe diem patchwork que chacun cuisine un peu à sa sauce. On nous rappelle sans cesse que notre présent n'est pas défini par notre passé, qu'il est à cueillir, qu'il faut s'augmenter, guérir au plus vite si possible, que nous pouvons nous transplanter d'un endroit à un autre et nous redéfinir à chaque instant. D'un autre côté, notre civilisation semble faire une sorte de retour du refoulé, puisqu'elle se tient sur un patrimoine culturel et informationnel colossal, et semble donc entretenir un rapport nostalgique, endeuillé à son passé, ainsi qu'on peut le voir dans les productions culturelles. L'art, notamment la musique, fonctionne sur des redites constantes, des collages d'influences, des échantillons. Nous l'avions déjà évoqué ensemble dans un précédent épisode, mais l'industrie musicale a un recours abondant à l'échantillonnage, dans de nombreux morceaux. Le genre musical du shoegazing, sous-genre de rock alternatif apparu dans les années 80 et connaissant un regain de popularité depuis les années 2010, est nourri pour sa part d'impressions nostalgiques et de thématiques comme celle des fantômes. Les compositions de groupes comme Daughter ou Kiltrow ont un recours systématique aux pédales d'effet, qui viennent réverbérer des lignes musicales qui vont revenir en ostinato, voire parfois des paroles inaudibles, créant ainsi un sentiment de nostalgie, d'étrangeté,
voire pouvant donner l'impression de faire irruption dans un morceau ou une conversation ancestraux, fantomatique, déjà interprétée depuis très longtemps. Bref, les mythologies nouvelles n'existent plus. Tout ce qui est nouveau semble charrier de l'ancien. Si l'art a autant recours aux fantômes du passé, n'est-ce pas aussi significatif du fait que la nostalgie, l'accueil de l'irrémédiable, le deuil et l'expérience des absents est une part inévitable de l'expérience humaine? Est-ce que le refus catégorique de la nostalgie n'échoue pas en vérité à l'éliminer? Est-ce que l'injonction à se remettre de tout, tout le temps, du passé, des ruptures, est-ce que cette injonction à faire tomber ce qui est mort dans l'oubli, à faire son deuil, ne mène pas dans les faits à des impasses pratiques? Tandis que je vous parle, je peux aussi le dire en mon nom. J'ai fervement défendu, moi aussi, pendant très longtemps, la philosophie de Nietzsche, prêchant de ne pas conserver des attaches au passé, de ne pas rester maladivement habité par des fantômes. Je croyais avec optimisme au fait que le passé pourrait toujours me servir dans le présent, que j'apprendrais de toutes mes expériences, toujours vers la voie de l'auto-amélioration, de l'accomplissement, du progrès. Ce sont les récits du développement personnel, dont nous sommes toutes et tous les victimes. Comme le souligne très bien la philosophe Claire Marin dans son ouvrage Rupture publié en 2019, il n'y a qu'un philosophe pour croire qu'on apprend de toutes nos expériences et que la résilience consiste à un retour à l'état initial ou à un état augmenté. Par exemple, l'expression « faire son deuil » ou « le travail du deuil » présupposerait de confiner celui-ci à un travail personnel d'oubli. Il s'agirait en somme d'anéantir le souvenir, source de souffrance, de la même façon que le mort doit retourner au néant. C'est ne pas retenir la leçon, car le passé fait toujours irruption dans notre présent, le traverse, parfois de manière brutale. C'est sans doute appliquer à nous-mêmes un fonctionnement de type machinique, comme en témoigne l'usage de termes comme reset, reboot, réinitialiser pour parler de nous-mêmes. La traversée des deuils, des ruptures et la façon dont le passé hante toujours l'expérience présente m'ont fait dire qu'il fallait considérer les êtres humains et les lieux dans toute leur épaisseur historique, en acceptant de faire un droit dans leur expérience au passé, à l'irrémédiable, aux attaches et ancrages anciens, révolus. La nostalgie n'est pas un moteur de l'action, c'est vrai, mais la vie ne peut pas toujours être orientée vers la quête de moteur, d'intensification constante de notre être et de notre désir. Il faut aussi accepter d'être hanté, d'être gros du passé, d'être fracturé, ralenti, enraciné mais aussi arraché, peuplé par des forces qui ne sont pas les nôtres et qui nous dépassent. Aujourd'hui, j'aimerais aborder du point de vue philosophique et anthropologique une question proche de ces problématiques du deuil et de la nostalgie, celle des fantômes. J'entendrai ici fantôme comme une métaphore très lâche pour l'ensemble des choses passées qui persistent dans le présent et continuent de le hanter, de l'affecter. En effet, la façon dont nous traitons les fantômes, comme des fictions ésotériques et grossières, est très similaire au traitement que nous réservons aux morts et au passé de manière générale. Nous rapportons les fantômes au psychisme, à la subjectivité malade et à la pathologie, aux symptômes de celui qui est en déni de deuil, qui n'a pas réussi à passer à autre chose. Celui qui est tenté, c'est celui qui n'a pas accepté la disparition. Comme l'explique Vinciane Després dans son ouvrage « Au bonheur des morts » publié en 2015, notre conception médicale, physiologique de la mort comme néant, est peut-être la conception la plus minoritaire dans le monde, et en même temps la plus dominatrice, car elle refuse la cohabitation avec toute pratique qu'elle qualifierait immédiatement de spiritique, médiumnique, ésotérique, voire pathologique. Si d'un côté nous avons lutté fort heureusement avec efficacité contre toutes les formes de pseudo-médecine, d'un autre nous avons intériorisé le ridicule, le tabou, voire la folie de poursuivre l'entretien de relations avec nos morts. Nous en parlons à peine et les timides hommages sont souvent rendus en se dédouanant par un « je le fais pour moi ». Pourtant, nous passons notre temps à parler à répondre à, voire à continuer l'œuvre des absents. Nos pratiques sont très souvent conditionnées par quelque chose qui correspond au concept de fantôme, c'est-à-dire des choses et des êtres qui persistent dans l'absence avant de s'évanouir. Selon Vinciane Després, il n'importe pas de savoir si l'on croit aux fantômes au sens d'entité immatérielle et spirituelle souvent errante et qui se manifesterait par le grésillement de votre téléphone. La question en fait n'est pas théorique ou métaphysique. de promouvoir des pratiques occultes autour de la boule de cristal, pas plus qu'il ne s'agit de contredire ce que peut en dire la science médicale du point de vue factuel. Il s'agit de poser la question à nouveau frais, différemment. À savoir, quelle relation entretenons-nous avec nos morts et quelle fécondité pratique est ouverte par la notion de fantôme pour penser ces relations. En d'autres termes, il faut avoir une approche pragmatique de la notion. Qu'est-ce que nous permettent de construire les fantômes? À quoi servent-ils? Quels sont leurs espaces, leurs milieux? Et par quelle manière les hommes ont-ils entretenu des relations avec eux? Et pourquoi? La psychologie a tendance à qualifier de déni de deuil toute attitude qui consiste à faire en fonction d'un mort, à répondre ou à s'adresser ou à penser aux morts. Pour ce podcast, j'aimerais poser cette question. N'est-ce pas notre société qui nous incite à faire un déni des relations avec les disparus? Les nouvelles technologies de communication peuvent par exemple créer un sentiment d'ubiquité, c'est-à-dire de présence potentielle permanente de tous nos contacts dans notre poche, et ce sentiment d'ubiquité, d'omniprésence du monde, peut rendre l'absence difficile à conceptualiser et surtout difficile à vivre. Combien est-ce dur de supporter l'absence d'un mort ou d'arriver aujourd'hui à se décider à ne plus contacter son ex? Il n'est pas non plus étonnant qu'on parle aujourd'hui de ghosting lorsque quelqu'un cesse de nous répondre sur les réseaux sociaux par exemple. Les conditions même pour que le ghosting puisse exister, nous faire mal et soit condamnable, sont à mettre en évidence. Et ces conditions, c'est précisément ce régime d'omniprésence permanente du monde, du lointain et de l'absent. Si bien que notre culture du lien avec les absents, les disparus, s'est considérablement appauvrie, et nous la laissons à des charlatans qui profitent de cette conjoncture pour s'enrichir par des pratiques fumeuses, dogmatiques et néfastes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais donc réfléchir avec vous à cette culture de l'absence et des fantômes tant nécessaires à l'existence humaine. Aujourd'hui, nous allons poser quelques jalons de l'art de vivre avec ces fantômes. Dans l'introduction à son ouvrage « Ghost of My Life », écrit sur la dépression, l'anthologie et les futurs perdus, publié en 2014, l'écrivain Mark Fisher commente et définit le terme d'anthologie. Néologisme inventé par le philosophe français Jacques Derrida dans son ouvrage « Spectre de Marx » en 1993. L'anthologie, du verbe « hanter » avec un H, comme un fantôme, désigne un régime particulier d'être qui prend en compte les façons d'exister ou de persister qui ne sont ni la présence de la vie, ni le néant de la mort. L'anthologie se distingue de l'ontologie, c'est-à-dire de la théorie de l'être communément admise en Occident. L'être est, et le non-être n'est pas, et il n'existe aucune position tierce entre ces deux régimes d'existence. La vie et la mort, c'est un peu comme un bouton on and off, en gros. Jacques Derrida oppose à cette ontologie binaire au moins un troisième terme. Entre la présence, ce qui est, et le néant qui n'est pas, il y a ce qui hante, l'absence. Toute présence est court-circuitée, hantée par des absences. Être absent, c'est un régime spécifique d'être qui ne correspond ni à la présence, ni au néant. C'est quelque chose qui persiste, qui ne se donne pas à nous, mais qui n'est pas non plus pur néant. Par exemple, le capitalisme contemporain est hanté par le spectre de l'échec du communisme. Le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui n'a tout simplement pas la même portée depuis la faillite des idéaux de Marx. De la même façon, les lieux de votre enfance ou la maison d'un parent décédé sont grévés d'absence. Derrida applique également ce constat à l'écriture. Écrire, c'est toujours s'inscrire dans une parole qui existe avant soi. Écrire, c'est évoquer, convoquer, charrier des images, des mots, des sens qui, par définition, ne sont pas dans la lettre du texte, mais qui sont invoqués par lui. Écrire, c'est toujours réécrire quelqu'un d'une certaine façon, c'est se situer par rapport à des textes et à des mots d'absent. Autrement dit, le sens global d'un texte dans l'écriture nous échappe toujours, parce qu'il renvoie à une infinité d'absences, d'auteurs ou de gens auxquels l'on répond indirectement, eux-mêmes renvoyant à une infinité d'autres fantômes. Quand quelqu'un nous parle, nous essayons en général de comprendre le sens immédiat de ses propos. La parole essaie d'être claire, sans ambiguïté, pour délivrer une information ou demander quelque chose. Si vous devez vous arrêter trop longtemps pour essayer de comprendre et interpréter ce que quelqu'un vous dit, c'est que sa parole échoue. C'est pour cela que l'écriture est différente de la parole, nous dit Derrida. L'écriture permet ce temps d'interprétation, ce temps pour poser les questions telles que « d'où vient ce texte ?»,« à quel monde il renvoie ?»,« à qui répond-il ?» Bref, l'écriture appelle à réfléchir aux absents. Selon Derrida, elle diffère, c'est-à-dire qu'elle retarde toujours le sens. C'est ce qu'il appelle la différence. Quand on y réfléchit, un texte est un abîme. Il contient non seulement tous les textes qui lui ressemblent, mais aussi les textes auxquels il ne veut pas ressembler, et encore les textes qu'il aurait pu être mais qu'il n'est pas, etc. Dans le roman de Louis Aragon, Aurélien, publié en 1944, le personnage principal Aurélien est hanté par la guerre 14-18, traumatisé par son souvenir. Le roman débute alors qu'il rencontre Bérénice, elle-même incapable de se remettre d'un mariage ennuyeux. Dans l'incipit du roman, Aurélien n'a de cesse de se répéter une citation du dramaturge Racine en boucle. « Je demeurai longtemps errant dans Césarée ». Il est comme traversé, hanté par ce vers qui ne cesse de lui revenir. Le vers est la parfaite métaphore de son traumatisme. Il est poursuivi, cerné par ses fantômes, traversé par le passé. Le contenu du vers évoque lui-même les esprits errants, le fait d'être absent à soi-même. En se répétant ce vers, Aurélien marque sa propre aliénation. Sa parole n'est pas vraiment la sienne, puisqu'elle est celle de Racine. Si Aurélien est un cas extrême, il est toutefois représentatif d'une condition humaine inévitable. Nous sommes traversés par un langage qui ne nous appartient pas. De la même façon, nos lieux et nos paysages sont chargés des traces de l'histoire humaine et naturelle qui nous ont précédés. Faire une anthologie, c'est donc réfléchir à la façon dont les absents sont convoqués à nous, à comment ils font irruption dans notre existence. C'est se rendre sensible à eux, c'est-à-dire à leurs traces, comme nous pouvons nous rendre sensibles à ce qui n'est pas littéralement dans un texte, mais qui se trouve sur ses marges. Dans un article intitulé « Le territoire comme palimpseste », écrit en 1983, l'historien de l'art suisse André Corboz nous incite à porter le regard sur les traces dans nos territoires. Il définit nos espaces de vie comme des palimpsestes. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, un palimpseste est un parchemin déjà utilisé et dont on a effacé les précédentes inscriptions avec de la ponce pour réécrire par-dessus. Le parchemin ainsi réécrit porte encore les traces des écritures précédentes comme en transparence. De la même façon, Corboz montre comment nos espaces contiennent encore des traces d'anciens aménagements, comme par exemple les ruines des voies romaines, les plans d'architecture médiévaux dans les centres-villes, tout ça se stratifiant année après année. Le territoire est comme un parchemin à moitié effacé et sur lequel on réécrit. Les pratiques d'archéologie vont dans ce sens. On peut donc faire l'anthologie, c'est-à-dire l'étude des traces persistantes du passé dans le présent, et la façon dont elles influent sur lui dans tous les domaines, qu'il s'agisse de personnes, des lieux, des espaces, des productions culturelles. Le cas des Lost Media est à ce titre exemplaire. Les Lost Media, les médias perdus, sont des productions médiatiques de tout genre dont on sait qu'elles ont existé ou existent, mais dont on a perdu le support d'origine, si bien qu'il n'en reste que des extraits ou des signes. Par exemple, certains films ont été tout simplement détruits, et il n'en demeure que les affiches. Certains morceaux de musique, vendus parfois sur des CD gravés seulement à quelques exemplaires ou enregistrés sur des cassettes, connaissent un sort similaire. Impossible de retrouver leur source d'origine, le groupe ou le nom du morceau. N'en reste généralement que des extraits mal enregistrés avec des effets de grésillement. On les appelle les Lost Waves. Et des utilisateurs Reddit ont créé des pages d'enquête pour les pister et retrouver leur origine. Si le sujet vous intéresse par ailleurs, je vous renvoie à la vidéo du youtubeur Feldup sur les Lost Waves. Ces extraits ou signes d'un passé irrémédiablement perdu, ce sont proprement des formes de fantômes. Retrouver ces extraits, les écouter ou les voir peut provoquer de la nostalgie, parce que l'on peut être persuadé d'avoir déjà vu tel film ou déjà entendu tel morceau. Parfois, ces souvenirs d'expérience sont créés de toutes pièces. Parfois, ils sont réels. Les productions culturelles contemporaines ayant tendance à citer les années 80 et 90, cet effet peut être d'autant plus fort aujourd'hui. Des thèmes mélodiques isolés, dont on ne connaît parfois plus la source en tant qu'auditeur, semblent s'allier à du nouveau, créant un contraste étrange qui convoque des émotions contradictoires. On peut en un sens apprendre à pister les fantômes, donc. Les fantômes deviennent alors une sorte d'horizon d'enquête. Ils nous permettent d'approfondir nos liens, nos relations avec les êtres et les choses du passé. Dans notre épisode sur Baptiste Morisot, nous avions vu qu'il était envisageable de puiser des inspirations de recherche en biologie dans certains concepts des cosmologies animistes ou totémistes ou analogistes. En un sens, dans son ouvrage Au bonheur des morts, la philosophe Vinciane Després nous invite à faire de même, à nous servir des fantômes comme d'un outil d'enquête et de compréhension du monde, ainsi que d'un outil de soin, d'intensification des relations avec les morts et avec les vivants à travers eux. La fonction archéologique des fantômes est illustrée à merveille dans le jeu vidéo Outer Wilds, édité par Annapurna Interactive en 2019. Dans ce jeu de xéno-archéologie, vous incarnez un explorateur spatial enquêtant sur les traces d'une civilisation extraterrestre disparue. L'ambiance retranscrite y est constamment fantomatique, les planètes étant couvertes de cadavres, chacune possédant d'ailleurs à sa surface un autre explorateur qui joue de la musique et que vous pouvez entendre depuis l'espace. L'univers sonore du jeu, en dehors des moments où vous utilisez vos outils de détection pour écouter les autres voyageurs ou entendre certains objets spécifiques, est assez silencieux, donnant le sentiment à la fois d'être isolé, mais aussi cerné par des présences. Chaque moment du jeu donne l'impression d'être à la poursuite de fantômes. Fantômes qui deviennent étrangement familiers, ressemblant à votre propre espèce, vous donnant ainsi le sentiment de plus en plus fort de faire communauté avec eux. Vous reconnaissez leurs noms quand ils les écrivent sur les murs, vous êtes témoin de leurs petites histoires, comme des événements majeurs de leur civilisation. Si le concept de fantôme a une fécondité qu'on pourrait dire scientifique ou archéologique, il en a donc également une émotive, dans la pratique du soin. Et à nouveau, le tout n'est pas de croire aux fantômes du point de vue théorique ou de se positionner sur leur existence réelle, mais de se servir du concept pour repenser nos relations aux morts et au passé. Comme le montre Christophe Ponce dans son ouvrage sur le médiumnisme et la croyance aux fantômes en Islande, il peut coexister des positions contradictoires au sein d'un écosystème de pratiques relationnelles tournées vers les morts. Certains individus peuvent se montrer sceptiques ou ne pas croire en l'existence des fantômes, tout en entrant dans le champ de ces pratiques et en y trouvant un autre intérêt, notamment dans leur culture du lien et du souvenir avec l'absence et avec la mort. Il faudrait donc davantage parler de pratique des fantômes plutôt que de croyance aux fantômes. En effet, la question de savoir si c'est symbolique ou réel n'intervient en vérité que très peu dans ces pratiques qui sont tournées vers la reconstruction collective de qui était la personne pour envisager la façon dont elle voudrait qu'on se souvienne d'elle, la façon dont elle voudrait être honorée, etc. La pratique des fantômes, ou de manière plus générale le besoin de cultiver un lien avec quelque chose d'irrémédiablement perdu, peut s'épanouir dans de nombreux milieux et sous de nombreuses formes. Signe qu'elle constitue peut-être un invariant anthropologique, un invariant des cultures humaines. Ainsi, une des hypothèses principales pour le recul de ces pratiques en Occident est le fait que le milieu ne s'y prêtait plus. Notamment que l'apparition des techniques d'éclairage public, par exemple, diminuait tout simplement les cas de vision de fantômes dans les rues. De la même façon, le passage du gaz de ville au gaz naturel, beaucoup moins dangereux et hallucinogène, a aussi contribué à diminuer les hallucinations dans les logements dits hantés. Pourtant, ainsi que le montrent des pays comme l'Islande ou encore le Japon qui a des catégories dédiées aux logements hantés sur les sites immobiliers, ce n'est pas l'indice de développement matériel d'un pays qui explique sa croyance ou sa pratique ou non des fantômes, pas plus qu'il ne s'agit de son degré de rationalité. En vérité, si la pratique des fantômes ne s'épanouit plus, c'est aussi à cause du climat de scepticisme et de stigmatisation très courant dans les pays occidentaux. Un scepticisme qui condamne aussi bien les pratiques que les théories et les croyances. Or précisément, nous l'avons montré, l'essentiel n'est pas de croire ou de statuer sur l'existence réelle de fantômes, mais d'engager des pratiques relationnelles salvatrices autour des morts, qui ne soient pas nos traditionnelles pratiques occidentales, orientées vers l'oubli, l'acceptation, etc. Le tout étant que celles-ci, ces pratiques, ne génèrent pas, comme aujourd'hui, un marché de vendeurs de faux espoirs, de charlatans, de recettes pour entrer en contact avec les morts. En fait, on pourrait même dire que c'est précisément l'exclusion de ces pratiques de la vie sociale qui a permis de faire fleurir ces marchés extrêmement rentables. On entend souvent dire que le problème que la plupart des pays occidentaux entretiennent avec la mort tient à l'affect qui y est rattaché, à savoir la tristesse plutôt que la joie. Je pense que le problème n'est pas celui de l'affect, mais celui de savoir ce qui est fait du mort, de la relation à lui, collectivement ou individuellement, après un enterrement ou une crémation. Souvent, le deuil se trouve, nous dit Vinciane Després dans Au bonheur des morts, confiné au psychisme individuel, abandonnant ainsi tout milieu où la relation aux morts pourrait continuer à exister, tout collectif où la relation aux morts pourrait s'épanouir. Il est peut-être souhaitable d'entrer dans une période dite de scepticisme mitigé. L'expression scepticisme mitigé vient de Hume et qualifie la capacité de l'homme à remettre en doute les fondements de son raisonnement. Pour le philosophe David Hume, il s'agit du raisonnement scientifique. Selon lui, il est, par définition, toujours faillible et imparfait, mais il faut en même temps admettre qu'il s'agit du raisonnement le plus pertinent et le plus probable, donc continuer et encourager la pratique des sciences. Un peu comme chez lui, on pourrait dire, en ce sens, que tout en restant sceptique concernant l'existence des fantômes, nous pouvons gagner à nous intéresser aux pratiques de soins et aux communautés que cette notion rend possible. Comme le souligne Vinciane Després, les morts sont parfois de formidables activateurs de vitalité, car ils peuvent faire discuter, contribuer à créer des liens, après leur mort. Dans son roman « Présence des morts » écrit en 1956, l'écrivain Emmanuel Berle raconte par exemple comment, alors qu'il retrouvait une vieille camarade de classe, le souvenir de l'une de leurs anciennes institutrices a été le principal sujet de conversation, leur permettant de recréer du lien sur l'absence. Les absents ou les morts sont des facteurs de lien entre les vivants. De là à dire que ce sont vos défunts qui vous ont présenté quelqu'un, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Le fantôme offre néanmoins, en tant qu'idée, une assise collective à la mort, de la même façon qu'on offre des lieux à ces morts qui sont comme une tribune où se rendre pour leur parler. Je dis leur parler, même s'ils ne répondent pas. Car parler aux absents n'est pas du tout pareil que de parler tout seul. Parler à un mort ne crée tout simplement pas la même disposition mentale que de parler seul. Que le mort puisse nous répondre, nous entendre ou non, n'importe pas. Entretenir la parole avec un mort, ce n'est pas seulement entretenir son souvenir, c'est aussi continuer la relation par d'autres moyens, détournés, en acceptant qu'elle est devenue irrémédiablement asymétrique, mais c'est continuer à inscrire ainsi le mort dans une histoire et une généalogie, dans un effort de narration. C'est reconnaître aussi la persistance du mort à travers soi, dans notre façon d'agir, de parler et d'être. On instaure la persistance du mort par des actes de parole. Il me semble étrange que le fait de parler avec ses morts soit aussi tabou ou disqualifié comme ridicule, ésotérique ou pathologique, quand nombre de gens écrivent des lettres qu'ils n'envoient jamais à des gens pourtant bien vivants. Et ces lettres changent bien la façon dont ils envisagent leur lien avec eux, donc modifient la relation. En Égypte ancienne, il était ainsi courant d'écrire des missives aux morts, comme celle du papyrus de l'Ède 371, adressée par un homme à sa défunte épouse. Dans son roman « La vie têtue », publié en 2022, l'écrivaine Juliette Rousseau s'insurge contre la manière pudique et privée dont nous traitons le deuil en Occident. Dans ce livre, l'écrivaine s'adresse à sa sœur, décédée des suites d'une complication du traitement chimiothérapique. Je la cite. « Le deuil, cet état supposé transitoire. Une affaire qui se règle. Une phase dont l'après doit être un genre de retour à l'avant. L'indécence des vivantes, de celles et ceux qui ne connaissent pas l'affront d'une mort violente, et qui pensent pouvoir poser des mots sur la tienne. Cette indécence-là m'a toujours révulsé. Pourtant, c'est souvent venu de celle que j'aimais le plus. Supporte-t-elle mal cette cohabitation avec toi ?» En s'adressant à sa sœur à la deuxième personne, Juliette Rousseau cherche justement à faire de son roman une longue lettre, mais aussi à donner un sens collectif à la disparition des êtres chers. Elle rappelle ainsi que ces mêmes êtres s'inscrivent dans des réseaux d'histoires qui les dépassent, qui nous dépassent et qui nous lient tous les uns aux autres. En l'occurrence, chez Juliette Rousseau, l'histoire violente des femmes de sa famille. Je la cite. « Nous sommes les héritières d'une détermination farouche. Nous, les descendantes des avortements ratés, des grossesses imposées. Celle-ci est indémêlable de nos douleurs et de nos rages, transmise d'une génération à l'autre comme on essore un torchon plein de sang dans l'anonymat d'une cuisine plongée dans la nuit. » En rappelant le caractère politique et collectif du deuil, Juliette Rousseau montre l'intérêt de s'attacher à une notion comme celle de fantôme. La notion de fantôme oblige une reconnaissance de ce qui est mort, et ce, pour le monde extérieur. Le fantôme exige un rappel que, pour chacun, une absence vit à travers les lieux, mais aussi un rappel des raisons de la mort, souvent injustes, sociales, de part et d'autre. Pour la mort de sa sœur, Juliette Rousseau peut ainsi rappeler le traitement froid et insensible que lui ont réservé les médecins sur sa fin de vie. En d'autres termes, Juliette Rousseau et d'autres critiquent particulièrement la théorie freudienne du deuil. Dans « Deuil et mélancolie », publié en 1917, Freud pose que le deuil passe par trois phases en allant vers une progressive intériorisation de la présence du mort. Il faudrait, comme nous l'avons déjà rapidement évoqué au début de l'épisode, désinvestir l'environnement du sens que lui conférait le mort. Trivialement, cela consiste par exemple à transformer le sens d'un objet qui nous fait penser au mort. Pourtant, comme le montre très bien Juliette Rousseau, désinvestir le défunt de l'environnement est peut-être une très mauvaise façon de faire son deuil, c'est-à-dire d'accueillir véritablement l'absence, de se nourrir d'elle et de se rappeler de ce qui a été. Toute entreprise du souvenir n'est pas un état mélancolique de nature pathologique. Prenant l'exemple des hirondelles, Juliette Rousseau peut ainsi écrire ce passage magnifique. Les années qui ont suivi ta mort, je les ai attendues le cœur serré. Tant qu'elles reviennent, ta mort est une absence, mais pas une rupture. Le retour des hirondelles, c'est la vie têtue. C'est toi ou moi, à 5 ou 6 ans, qui tenons tête, ne lâchons pas. C'est toi qui n'es plus, et toi qui es encore là, différemment. Leur balai facétieux au-dessus du petit étang, en bas du hameau, m'a ouvert le cœur comme personne d'autre. La joie des hirondelles au-dessus de l'eau, c'est toi qui ne m'as pas complètement quitté. Toi qui perdures et toi qui gagnes, malgré la mort. Le retour des hirondelles, c'est une place au monde pour mon cœur contradictoire. La possibilité de n'avoir pas à y démêler la joie de la tristesse. Ici, l'écrivaine montre combien, au contraire, nourrir les liens avec ses morts peut être salvateur. Combien être attentif aux signes qui nous rappellent aux morts a une importance capitale. Combien il est important, pour le dire autrement, de parler, de se parler des disparus. La forme même que prennent ces relations, plus ou moins collectives, aux fantômes, a considérablement varié. Historiquement, nous avons noué différents types de relations aux morts selon différents rituels, à chaque fois au travers d'une grande diversité s'agissant des conceptions de leur être. Avant l'apparition de la notion de purgatoire au XIIe siècle, l'Église a vivement combattu les conceptions dites païennes des fantômes, et renvoyer les âmes des défunts à des entités démoniaques plutôt qu'à des esprits sollicitant de l'aide, comme dans la Rome et la Grèce antique, mais aussi comme dans les séries policières Ghost Whisperer ou Cold Case, ou encore dans la scène 4 de l'acte 1 de Hamlet de Shakespeare, où le père de Hamlet et défunt roi lui demande de venger son honneur en tuant son assassin. Après l'apparition du purgatoire, l'idée selon laquelle les âmes puissent errer dans un tiers-lieu car elles sont les victimes d'un conflit interne ou de péchés non résolus, se popularise. la distinction entre esprit démoniaque et âme perdue s'impose plus nettement. L'esprit errant, c'est une manière de poser l'existence d'un héritage et parfois d'une continuité de l'œuvre des morts à travers nous. Dans le jeu vidéo Spiritfarer de Thunder Lotus Game, vous incarnez une passeuse d'âme, Stella, remplaçante de Charon, dont le but était de faire passer les âmes de l'autre côté du fleuve Styx. Afin d'aider ses proches à aller de l'autre côté, Stella doit répondre à leurs demandes, leurs sollicitations, les écouter et, d'une certaine façon, continuer leur œuvre. Les morts œuvrent à travers nous. C'est généralement très vrai lorsque nous perdons un parent. Le parent nourrit pour nous des espoirs, puisqu'être un enfant, c'est d'abord avoir été le projet de vie du parent. Le fait de grandir implique de se séparer des projets parentaux, mais la perte du parent donne un caractère forcé, contraint à cette séparation. Il faut accepter brutalement de n'être plus jamais le projet de quelqu'un, de la même façon que la rupture implique aussi de faire le deuil d'une part de nous-mêmes. C'est pourquoi la perte d'un être cher conduit à des futurs perdus, et peut provoquer un sentiment de désorientation. Or, parfois, s'attacher aux morts, aux fantômes, et essayer de continuer l'œuvre qu'ils imaginaient pour nous, par des moyens détournés, est vital. Parfois, la mort elle-même donne un sentiment d'obligation supplémentaire et peut nous pousser encore davantage. Comme le souligne Vincent Després, il est d'ailleurs même étrange que les morts puissent disposer d'un tel pouvoir de contrainte sur nous. Aussi, parfois, ce n'est précisément pas le fait de chercher à oublier ces fantômes qui engrangent de la vitalité, mais c'est précisément le fait de les continuer, de les honorer. Donc, les fantômes ouvrent à des pratiques archéologiques, des pratiques de soins, des pratiques artistiques, c'est-à-dire des horizons politiques essentiels.
Caché derrière la porte, à l'affût de ma chambre, il suffit que j'en sorte, les fantômes m'attendent, ils me couvrent de draps. La démarche lascive ralentisse mes pas, les fantômes me suivent et ils serpentent les murs.
Dans l'ouvrage collectif Rebellious Mourning, littéralement le deuil rebelle, édité par Syl Dimenstein, plusieurs écrivains montrent comment les morts et les deuils soudent les communautés et permettent de tisser et de renforcer les solidarités. Les deuils, quand ils sont collectivement pris en charge, sont des catalyseurs de forces collectives. Ils permettent ainsi de rappeler, comme chez Juliette Rousseau, pourquoi les vies ont été enlevées. Le deuil privé, écrit Cindy Milstein, est une manière de dissimuler et défendre l'ordre social qui produit dans nos vies des pertes trop nombreuses et injustifiées. Défendre ces fantômes, c'est un peu aussi forcer la société à rappeler ce qui les a tués, pourquoi elles sont mortes, mettre le doigt sur les dysfonctionnements sociaux qui sont à l'origine de leur disparition. Ainsi, les fantômes, les morts, peuvent servir de support à la dénonciation des violences policières, des guerres ou encore du capitalisme. Ainsi, au Vietnam, nombre de pratiques spiritiques tournent autour des esprits errants de soldats américains post-guerre du Vietnam. Prendre en charge ces esprits, c'est d'une certaine manière entamer un processus de mémoire pour les Vietnamiens, de prise en charge collective du deuil de la guerre. Cela leur permet ainsi de penser la guerre, mais de penser dans tous les sens du terme, c'est-à-dire penser P-E-N, mais également penser P-A-N. Le deuil est un support collectif de réflexion sur la guerre et sur le trauma qu'elle a pu engendrer. La prise en charge d'esprits errants de soldats américains, c'est une manière collective de pardonner à l'envahisseur pour les Vietnamiens d'une certaine façon.
Dans le contexte actuel des crimes de guerre commis par les têtes du gouvernement israélien ou par le Hamas, la question du souvenir collectif est également cruciale. Rappeler le nom des morts, des victimes des kibbutz et de la bande de Gaza, c'est rappeler pourquoi ils sont morts et pouvoir fédérer sur des questions politiques. C'est aussi potentiellement rassembler les communautés autour de souffrances liées à la guerre et à leur gouvernement. De même, le capitalisme, qui produit à l'excès tout en ne se préoccupant pas de ses déchets, est un système qui a tendance à se débarrasser du passé pour mettre en valeur les ressources présentes. En particulier sa version néolibérale dans certaines formes extrêmes de l'urbanisme ou de l'architecture est particulièrement critiquable. Notre abandon des fantômes ou des traces du passé est en effet symptomatique d'une manière de se rapporter à l'espace et à la façon de le construire qui est regrettable. La planification et l'architecture urbaine des années 70-80, par exemple, a pu ignorer la réalité matérielle et historique des lieux sur lesquels elle s'étendait. Plutôt que de l'architecture sur site, c'est-à-dire tenant compte des réalités du site, il s'agissait plutôt de projets déconnectés de la réalité du terrain.
Dans un ouvrage intitulé Genius Loki, publié en 1981, l'architecte Norberg Schulz théorise ce qu'il nomme le Genius Loki, le génie du lieu. Génie est un terme justement très proche d'esprit ou de fantôme, comme le génie de la lampe dans Aladdin. Pour être un bon architecte, défend Norberg Schulz, il faut produire une architecture qui porte l'attention sur ses implications psychiques, sur ses effets psychologiques. Notamment une architecture sachant identifier l'atmosphère, l'ambiance du lieu pour proposer des constructions qui soient respectueuses de cet esprit des lieux. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, le Genius Loci était un concept courant, faisant souvent référence à des entités naturelles représentatives d'un élément dominant au sein d'un espace, une forêt, une lisière, une plaine, un désert, etc. Ici encore, les fantômes sont une sorte d'outil métaphorique pour enquêter sur la réalité atmosphérique des lieux, et ce faisant pour lutter contre des formes d'urbanisation top-down, du haut vers le bas, qui ne tiennent pas compte du quotidien et des pratiques de l'espace. Dans un esprit différent, la pratique de l'urbex ou urban exploration, en choisissant des lieux marginaux, délaissés, abandonnés à explorer, voisine souvent avec la thématique des fantômes ou du surnaturel. Si certains producteurs d'urbex tournent leur contenu essentiellement vers l'horreur, d'autres ont aussi une approche nostalgique, où ils se sentent authentiquement émus et traversés par l'atmosphère des lieux dans lesquels ils se trouvent. Ce faisant, l'urbex peut non seulement être pensé comme une forme populaire d'enquête de type archéologique, de relevé de traces, mais encore une pratique de soin et de deuil à l'échelle collective, mettant en avant ces lieux dont on ne fait plus rien et qui ont été oubliés, leur créant une valeur non marchande, incitant à réfléchir sur les déchets, les rebuts du système productiviste. En donnant cette portée narrative et collective à ces lieux délaissés, les pratiques de l'urbex font du deuil une régénération du sens. Si bien que plus encore que la portée même ou l'utilité du concept de fantôme pour repenser nos relations au monde et aux autres, il faut encore ouvrir, pour finir, sur ce dont est symptomatique la disparition de ce thème dans la plupart des pays occidentaux. Est-ce seulement là le triomphe des sciences modernes ? N'est-ce pas finalement le symptôme plus profond d'une difficulté à se rapporter au passé, au deuil et à la souffrance, dans un système entièrement tourné vers le présent et vers la satisfaction du désir ? Notre société s'est-elle encore, comme le dit Juliette Rousseau, bricoler, faire avec de l'ancien, et danser sur les ruines ? S'est-elle encore prendre en charge collectivement de vrais travaux de mémoire qui ne soient pas menés dans le but de servir à un agenda politique ou un récit national ? Voilà à quoi doit nous mener la métaphore filée des fantômes, à retisser des liens, à refaire société sur ce qui a disparu. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à le partager via le site de Radio Bartas ou via Spotify. Vous pouvez également vous abonner à la page Instagram @lesvanupieds et la repartager sur les réseaux sociaux. C'était Ben pour Les Vanupieds et je vous salue.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Vanupieds, tout est vanupieds.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Bartas.
Tout est vanupieds.